En France, un violeur d'enfants a peu de chances d'être arrêté. S'il est arrêté, peu de chances d'être condamné. S'il est condamné, peu de chances d'aller en prison. Et s'il y va, peu de chances de purger sa peine entière. Voici comment fonctionne notre justice. Il y a des chiffres qui devraient provoquer une crise nationale, des chiffres qui devraient déclencher des démissions, des réformes d'urgence, des interpellations au Parlement européen. Et pourtant, en France, ils provoquent un communiqué de presse, une réunion en préfecture et quelques articles qui disparaissent en moins de 24 heures. Ce que nous allons vous dire dans cette vidéo est documenté, chiffré et vérifiable. Et si vous n'en avez pas entendu parler, c'est précisément parce que ceux qui devraient agir préfère que vous ne sachiez pas. Le 7 juin 2026, Gérald Darmanin réunit les 36 procureurs généraux à la chancellerie. Quelques jours après la découverte du corps de la petite Liana, collégienne de 11 ans, retrouvée assassinée dans le Gers. Dans cette convocation, il leur demande de recenser l'intégralité des plaintes pour viol et agression sexuelle sur mineurs actuellement en attente dans les parquets français. Le chiffre qu'il annonce dans un premier temps est de 70 000 dossiers. Puis au fil des remontées des parquets, ce chiffre grimpe. Il continue de grimper jusqu'à 88 000 plaintes, ce qui signifie 88 000 enfants qui ont parlé, qui ont été entendus, dont le dossier dort quelque part dans un bureau de la justice française sans que personne ne s'en occupe activement. Pour comprendre ce que cela signifie concrètement, faisons un calcul simple. Si l'on divise ces 88 000 dossiers par le nombre de magistrats affectés au parquet pour mineurs, on obtient environ 175 dossiers par magistrat. En comptant au minimum à peu près 4 à 5 heures de travail par dossier avec des journées de 10 heures, il faudrait à chaque magistrat 4 mois de travail exclusif pour traiter sa seule et unique pile, sans rien faire d'autre, sans nouvelles affaires, sans audience et sans urgence. Ce n'est pas du tout un objectif atteignable en un mois, car ce n'est même pas atteignable en un an. Et pendant ce temps, les victimes, elles attendent et les prédateurs, eux, sont toujours libres. Les chiffres concrets qui filtrent des parquets en disent long. Prenons l'exemple de Nîmes. À quelques jours de la date butoir fixée par Gérald Darmanin au 14 juillet, seuls 2 procédures sur 1500 font l'objet d'une enquête active. 2 sur 1500. Et ce n'est pas du tout une exception locale, c'est le reflet fidèle de la réalité nationale. Mais derrière ces 88 000 dossiers, il y a une réalité encore plus sombre que les chiffres bruts qui ne laissent quasiment rien apparaître, parce que ces plaintes ne représentent que la partie visible de l'iceberg. La France compte aujourd'hui plus de 3 millions de procédures judiciaires en attente dans des placards des commissariats et des brigades de gendarmerie, dont le parquet n'ont même pas encore connaissance. Ce qui signifie des affaires entières, potentiellement des faits d'une gravité extrême, qui n'ont jamais franchi la porte d'un magistrat. Quand on sait ce que peuvent contenir ces stocks, le chiffre de 88 000 donne le vertige et la réalité sous-jacente davantage encore. Mais il serait trop facile de réduire ce désastre à une simple question de moyens. Parce qu'au-delà des tribunaux engorgés et des magistrats débordés, il y a quelque chose de bien plus profond, de bien plus structurel qui mérite d'être nommé. C'est la pyramide de l'impunité. En France, un prédateur sur enfant a d'abord peu de chances d'être arrêté. Puis une fois arrêté, peu de chances d'être condamné à de la prison. Puis s'il est condamné, peu de chances d'être réellement incarcéré. Et s'il l'est, peu de chances de purger l'intégralité de sa peine. C'est une pyramide construite brique par brique, décision après décision, et ça pendant des décennies. Et les chiffres le confirment avec une brutalité qui devrait choquer absolument tout le monde. Seulement 3% des viols sur enfants aboutissent à une condamnation, ce qui signifie un enfant sur 5 est victime d'agression sexuelle ou de viol en France. Rapprochez ces deux données et vous obtenez le tableau complet d'une justice qui a collectivement décidé de ne pas protéger ses enfants. Il y a une erreur dans laquelle il serait trop commode de se réfugier, celle qui consiste à réduire ce désastre à une simple question de moyens. Les moyens certes manquent, les prisons sont surchargées, les magistrats débordés et la construction de nouvelles places de détention devrait être un chantier prioritaire. Mais la question des moyens ne répond absolument pas à tout, parce qu'il y a au-delà une question qui est absolument idéologique que l'on refuse trop souvent de poser, et c'est celle du laxisme. Le laxisme n'est pas un mythe, mais il est une réalité, et une réalité chiffrée en France. Un condamné écope en moyenne d'environ 20% de la peine maximale prévue par le code pénal, ce qui signifie que les textes prévoient des sanctions fermes, mais que la pratique des magistrats les vide de leur substance. Ce n'est pas une question de ressources, c'est une question de culture judiciaire, une culture qui, par ailleurs, depuis bien trop longtemps, a préféré choisir la clémence systématique au détriment de la protection des victimes. Et cette culture, vous le savez, elle a une histoire, une généalogie et évidemment des responsables. En mai 1977, une pétition publiée dans Le Monde, signée par Sartre, Beauvoir, Foucault, Jacques Lang, Roland Barthès et d'autres encore, demandait la dépénalisation des relations sexuelles entre adultes et enfants. Non, la gauche n'a pas simplement fermé les yeux sur la pédophilie, elle l'a théorisée, justifiée, défendue au nom de la révolution sexuelle, et c'est cet héritage qui a empoisonné le débat public pendant des années en contribuant à un climat où les abus étaient moins pris au sérieux. Derrière chaque dossier classé sans suite, il y a une famille qui a attendu. Une mère qui a préparé son enfant à répéter devant un inconnu ce qu'il avait du mal à dire à voix haute. Un enfant qui a trouvé les mots, qui a fait l'effort immense de nommer ce qu'on lui avait fait et qui a vu sa parole se heurter au silence d'un système débordé ou simplement indifférent. Le classement sans suite n'est pas une décision neutre, c'est un message et le message qu'il envoie aux victimes est dévastateur. Clairement, ça veut dire ce que vous avez subi ne mérite pas qu'on s'en occupe. Les familles que nous avons rencontrées dans le cadre de nos enquêtes le disent toutes, avec des mots différents évidemment, mais toujours avec la même douleur. Le classement sans suite ne clôt pas une affaire, il ouvre autrement dans la tête de l'enfant qui ne comprend pas pourquoi ce qu'on lui a fait n'a pas de conséquences, dans celle de la mère qui se demande si elle a bien fait de parler, ou encore dans celle du prédateur qui, lui, a compris qu'il pouvait recommencer. Car c'est l'autre face de ce désastre judiciaire que l'on évoque rarement. Un classement sans suite, c'est aussi une autorisation tacite. Et un prédateur non poursuivi est un prédateur qui reste libre avec toute la confiance que lui confère l'impunité. Et parfois, cette impunité tue. Jérôme Barella était déjà visé par des plaintes pour des viols et agressions sexuelles sur mineurs avant la mort de la petite Liana. Des signalements avaient même été transmis par des organismes américains de lutte contre la pédocriminalité internationale et tout avait été ignoré ou classé sans suite. La justice française a lamentablement failli, permettant à un prédateur de continuer à sévir jusqu'au drame ultime. Liana avait 11 ans, et selon les éléments de l'enquête qui ont filtré, elle aurait également été violée avant d'être assassinée. Son dossier était l'un des 88 000. Alors cette faillite n'est pas seulement administrative, elle n'est pas seulement politique, elle dit quelque chose de beaucoup plus profond sur ce que nous sommes collectivement prêts ou non à faire pour protéger les plus fragiles. Elle dit la tentation permanente de l'institution à se préserver elle-même plutôt qu'à servir ce dont elle a la charge, le renoncement progressif d'une société à exiger de sa justice qu'elle soit réellement juste et l'immense solitude de familles qui, au moment le plus douloureux de leur existence, ont frappé à des portes qui ne s'ouvraient pas. Les Français ne s'y trompent pas. La confiance dans l'institution judiciaire s'est effondrée. Et les raisons de cet effondrement ne sont pas abstraites. Elles ont un visage, elles ont un nom, elles ont 11 ans et s'appellent Liana. Ce qu'attendent les familles, ce n'est pas une réforme de plus, une mission de plus, un rapport de plus, c'est que la prochaine fois qu'un enfant parle, quelqu'un l'entende et agisse. 88 000 plaintes, des enfants qui ont parlé, des familles qui ont attendu et un système qui a choisi collectivement de regarder ailleurs. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité parce que d'autres pays font mieux, parce que les textes de loi existent, parce que les magistrats engagés existent également. Ils sont simplement noyés dans une machine qui ne leur donne pas les moyens d'agir. Mais tant que le laxisme sera une culture plutôt qu'une exception, tant que les classements sans suite seront la règle plutôt que l'anomalie, tant que les prisons ne seront pas construites et que les magistrats ne seront pas en nombre suffisant, d'autres enfants paieront le prix de cette indifférence institutionnelle. Retrouvez l'intégralité de notre enquête dans notre dernier magazine « Ces pédocriminels parmi nous », disponible en kiosque et sur www.frontieresmedia.fr. Soutenez notre travail, c'est ce qui nous permet de continuer à vous dire ce que d'autres préfèrent taire.